Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. Aujourd'hui, eh bien, on va parler d'anti-wokisme et ce sera avec vous David Paternotte. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de sociologie à l'ULB et Martin Delex. Bonjour.
Bonjour.
Et donc vous êtes chargé de cours en sciences politiques et vous êtes rattaché au Centre de théorie politique, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui vous a amené tous les deux à travailler sur, à travailler ensemble ou sur l'anti-wokisme ?
Bah, peut-être c'est revenir sur la séquence politique qu'on a vécue en Belgique en mars 23. Donc, on a le rapport de Nadia Geerts d'une part, et puis quelques jours après, le livre de Bart De Wever qui sort aussi. Et ce qui a surtout qui a commencé à secouer les gens, c'est dans le rapport de Nadia Geerts, on avait de manière assez inédite des attaques personnelles contre des collègues. Donc, on avait des collègues qui étaient cités nommément dans ce rapport, collègues de l'ULB, et des intitulés de cours qui étaient aussi visés, et des programmes de cours comme le master en études de genre que j'ai longtemps présidé. Et donc là, il y avait quelque chose où on s'est dit c'est un précédent dangereux. Et on a commencé à dire comment est-ce qu'on réagit. On a commencé à réunir des professeurs, des collègues à l'ULB. La même chose s'est faite dans d'autres universités. Et au fur et à mesure des discussions a surgi l'idée d'un colloque qui a eu lieu en décembre 23 à Saint-Louis, où on a essayé d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et le numéro de la Revue Nouvelle qui en est sorti vient de là. Là, on est encore en train de réfléchir et de continuer à travailler sur essayer de comprendre c'est quoi ce moment, c'est quoi ce mouvement, quels sont les acteurs, quelles sont les demandes, comment ça s'organise, d'où ça vient. Voilà, ça c'est un peu le projet intellectuel.
Oui, et puis moi j'ajouterais que le rapport donc rédigé par Nadia Geerts, mais en fait qui est une commande qui avait été émise par le Centre Jean Gaulle, qui est le centre d'études du MR, donc ce n'est pas un rapport neutre ou objectif, c'est quelque chose qui vient et qui est issu directement des milieux partisans, et ce rapport se targuait de faire de l'histoire des idées politiques. Et comme je travaille dans un centre de théorie politique, et donc c'est ce qu'on fait, que c'est une partie de notre quotidien, je dirais qu'il y avait aussi un enjeu de ce point de vue-là, parce que faire de l'histoire des idées politiques, c'est quelque chose qui est souvent regardé avec un certain degré de suspicion, parce qu'on s'interroge sur l'objectivité possible. C'est compliqué de travailler sur des sujets clivants, sur des idées clivantes. Comment est-ce qu'on peut avoir une approche scientifique de sujets qui divisent autant ? Et donc, ça doit s'accompagner, à mon sens, d'un ensemble de précautions méthodologiques. Et ce rapport qui prétendait faire de l'histoire des idées, ne respectait aucune des règles fondamentales de la méthodologie vraiment de base pour pouvoir faire correctement ça. Et donc, moi, j'avais publié un petit texte, mais pour dénoncer le fait que c'était vraiment ouvertement un texte idéologique et absolument pas une étude. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai mis le doigt dedans, en quelque sorte. Et puis, après ça, j'ai été attrapé un peu par l'engrenage. Et puis, c'est vrai qu'on a trouvé qu'il y avait, avec David, un vrai sujet et qu'il y avait quelque chose qui méritait d'être étudié et compris.
Alors, si on parle d'anti-wokisme, on va peut-être d'abord définir c'est quoi le wokisme ?
Alors, justement, c'est ce qu'on essaye de ne pas faire. C'est-à-dire... Je pense que c'est vraiment le rapport qui est compliqué entre le débat public et le débat scientifique. Et ce n'est pas parce qu'un concept ou un mot apparaît dans le débat public, c'est le cas avec le wokisme, qu'il a nécessairement une réalité, que ce soit théorique ou sociologique. Et donc ce qu'on essaye de faire ici, c'est de sortir de cette opposition très binaire et qui n'apporte pas grand-chose et qui simplifie beaucoup le débat politique entre deux camps qui seraient les wokistes et les anti-wokistes. Mais c'est plutôt d'essayer de comprendre qui sont ces gens qui attaquent le wokisme et qui utilisent ce mot en général, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens dans le champ progressiste, même si c'est l'origine, qui vont utiliser le wokisme pour se définir. Par contre, on a des tas de gens qui sont dans des différentes campagnes contre le wokisme. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Donc on veut vraiment sortir, enfin on regarde ce que les gens en font, c'est un peu la même chose qu'on a fait sur les campagnes anti-genre. Le but n'est pas d'avoir les gens qui défendent le genre et les gens contre le genre, mais plutôt d'essayer de comprendre un mouvement politique, social, intellectuel qui se mobilise contre ce qu'ils appellent le genre. Et donc on essaye à la fois de comprendre c'est quoi ce qu'ils appellent le genre, ici c'est quoi ce qu'on appelle le wokisme, et d'où ça vient, qui sont ces gens, comment ils s'organisent, etc.
Parce que, à l'évidence, le fait de s'en prendre au wokisme sert un agenda politique. Il y a deux choses, à mon avis, qu'on peut pointer. C'est que, d'une part, ça permet une reconfiguration du paysage politique, parce qu'en fait, ça permet de créer des ponts et des liens entre des chapelles politiques qui ne se parlaient pas nécessairement ou qui avaient du mal à se parler précédemment. Et donc ça, c'est un premier élément au niveau vraiment de la politique partisane, en quelque sorte. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que ça permet de cristalliser quand même tout un ensemble de choses idéologiques. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait des discours épars, hein, des discours critiques sur un ensemble de revendications progressistes. Et donc, il y avait une opposition qui s'était déjà formulée sous différents termes, par exemple aux théories critiques de la race, qu'il y avait une opposition qui se formulait de plus en plus sur les enjeux de genre, ou sur les enjeux de revendications féminines. Et puis là, avec cette émergence de l'anti-wokisme, ce qu'on voit, c'est vraiment, en fait, des luttes conservatrices ou réactionnaires disparates qui trouvent un terme autour duquel elles arrivent à se cristalliser, autour duquel elles arrivent à se reconfigurer. Alors, David et moi, on n'est pas tout à fait nécessairement d'accord là-dessus. Moi, je me demande s'il y a un noyau idéologique commun à tout ça. David, ben, je le laisserai l'expliquer, mais n'en est pas nécessairement convaincu. Ouais.
Mais en tout cas, ce que je pense, c'est l'intérêt de travailler à partir de deux disciplines différentes et qui est intéressante, c'est-à-dire à la fois la théorie politique et Martin va utiliser les outils de sa discipline. Et puis en sociologie, ce qui m'intéresse plus, c'est moins de voir s'il y a une cohérence idéologique ou bien où ça se place dans le monde des idées. C'est plus de se dire, on a un terme qui a été inventé de ce qu'on sait aux États-Unis, dans les officines de la droite aux États-Unis et dans un des nombreux think tanks, même si on discutait ce matin, on se disait on n'est pas sûr dans lequel ni exactement quand, probablement en réaction à Black Lives Matter, c'est sans doute à ce moment-là que ça apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est ce que les gens ici en font ou ailleurs, c'est-à-dire qu'on a un terme qui flotte, qui est là disponible et dont des gens vont s'en emparer, des gens qui probablement, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas en lien avec les gens qui ont inventé le terme. Et donc, on a des circulations qui passent par la France, qui passent par les Pays-Bas, qui passent par la Grande-Bretagne ou par d'autres endroits, et des acteurs qui trouvent que c'est utile d'en faire quelque chose. Et par exemple, les versions de Bardewever ou de Boucher et de Geertz ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on va retrouver chez Nadia Geertz la question de la critique laïque par rapport à l'islam, à l'expression de la religion, etc., qui sont des éléments qui restent présents. On le voit beaucoup dans le contexte français, comment est-ce que le républicanisme reste prégnant dans la manière de comprendre le wokisme. Bardewever en fait une version nationaliste. C'est-à-dire qu'il s'inquiète beaucoup de la dissolution de la communauté nationale qui vient un peu en antidote de la menace wokiste. Donc voilà, ça c'est des appropriations différentes. Donc je dirais plutôt qu'un désaccord, c'est on regarde cet objet de manière différente et avec des outils différents.
Donc en gros, vous partez de l'idée, Martin Delecq, de plutôt l'idée d'un noyau idéologique commun et donc du côté de la sociologie, non, pas trop.
En tout cas, pas d'un...
De nouveau, là, on est très dichotomique.
Je dirais, c'est moins de savoir... Enfin, c'est pas que je dis qu'il n'y a pas de noyau idéologique commun, c'est plus que ce que je vais regarder, c'est pas tellement ça.
Ouais, c'est ça.
C'est plus comment des acteurs vont s'en emparer pour faire un certain nombre de choses qui voilà, ont un lien ou pas avec ce qui est proclamé dans la dénonciation. C'est-à-dire une des forces du wokisme aussi comme outil politique, c'est que ça permet d'attaquer tous azimuts, ça permet de mobiliser, et parfois sans grand rapport avec ce qui est supposément dénoncé.
Et moi je dirais, la question de savoir si oui ou non il y a un noyau idéologique commun à toutes ces à ce courant anti-wokiste, pour l'instant c'est à l'état d'hypothèse, parce que je me suis un peu imposé de lire la vague éditoriale qu'il y a eu, parce qu'il y a eu énormément de publications autour de cet enjeu du wokisme dernièrement, donc j'ai essayé de suivre un peu les différentes productions, et ceci dit, tant qu'à maintenant, je suis un peu contraint de me ranger, enfin je dois abonder dans le sens de David, c'est-à-dire que il y a effectivement en fait des investissements idéologiques de l'anti-wokisme qui sont très différentes, et c'est difficile de voir ce qui les rapproche à part plus une, je dirais, ce qui les lie à certains moments, c'est bien plus quand même un certain style, une certaine tonalité, qu'un contenu idéologique. Voilà, il y a quand même des thématiques récurrentes. Il y a une des choses qui me frappe, par exemple, c'est le réinvestissement de la question des Lumières. on voit qu'il y a ce détour historiographique et que les anti-woke se réclament très très fort des Lumières et qu'ils accusent ceux qu'ils nomment comme étant les woke, en fait, d'avoir abandonné les Lumières pour différentes raisons, parce qu'ils ont abandonné la rationalité, parce qu'ils ont abandonné l'idée du progrès, ou parce qu'ils ont abandonné l'idée de l'universel. Et d'abord, je pense qu'ils ont une lecture qui est assez caricaturale des Lumières. Les Lumières, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un mouvement intellectuel qui dure un siècle, qui est en fait le nom d'un débat plus que le nom d'une doctrine. Et donc, en fait, il y a des positions très différentes au sein des Lumières. Et puis surtout, je pense que ce n'est pas du tout évident que ceux qui sont accusés d'avoir abandonné les Lumières ont effectivement abandonné les valeurs de progrès, d'universalisme ou de rationalité. Je pense qu'on pourrait très bien montrer qu'il y a plein de gens qu'on taxe de wokisme et qui, en fait, restent des universels sincères, par exemple, et que c'est vraiment des procès un peu à l'emporte-pièce. Donc, voilà, il y a des thématiques et des choses récurrentes, mais je ne sais pas si ça suffit à leur donner une espèce de consistance idéologique commune.
Ça fait un peu nébuleux quand même, et donc assez compliqué à comprendre. Donc l'anti-wokisme, c'est un peu un anti plein de choses en fait. Ou alors un pro plein de choses, hein, puisque déjà l'anti-wokisme de Nadia Geert n'est pas celui de Bart De Wever, et n'est sûrement pas celui qui m'a traité de woke sur Facebook hier, quoi.
Non, et c'est ce qui fait la force du terme. Je pense que l'absence de définition, ou en tout cas une définition relativement flexible, c'est-à-dire il y a probablement un noyau, mais après c'est un terme qui est très malléable et qui donc permet à des gens qui n'ont pas grand-chose à voir de s'en emparer, et permet aussi parfois de créer des coalitions étonnantes. C'est-à-dire alors soit c'est des alliés objectifs sans vraiment travailler ensemble, soit ça va au-delà. On a vu par exemple, on le voit sur les droits des personnes trans, des coalitions entre des médecins rationalistes, des psychanalystes catholiques, des féministes, des militants laïcs, des réactionnaires. On a cet assemblage de gens qui peuvent collaborer parce qu'ils ont créé un terrain d'entente et un agenda idéologique qui leur permet de collaborer. Et ça, c'est vraiment la force du terme.
On a aussi, en termes de collaboration, donc, je pense qu'effectivement, c'est son caractère un peu évanescent qui donne son efficacité au terme, qui permet de rassembler de façon très large. Et David le mentionnait, donc, dans ces coalitions étranges, il y a non seulement le fait qu'on va faciliter les échanges entre une droite radicale et une droite plus traditionnelle, qui vont pouvoir, justement, en réinvestissant des thèmes un peu consensuels comme l'universalisme des Lumières, etc., en fait, se trouver des points d'accroche et des points de convergence. Et donc, ça, c'est une première coalition, mais qui n'est pas si surprenante en tant que telle. Enfin, l'union des droites, c'est quand même une vieille thématique. Mais ce qu'on va trouver, par contre, c'est, par exemple, des anti-wokistes de gauche, qui souvent appartiennent plutôt à des courants qu'on pourrait qualifier d'un peu archéo-paléo-marxiste, hein, qui considère que, en fait, la seule chose qui compte, c'est la classe, et que la classe, elle s'identifie un peu à l'ouvrier masculin blanc, chez qui, du coup, il y a une dénonciation de toutes les nouvelles luttes progressistes qui sont identifiées à des luttes identitaires, dont on occulte complètement la dimension sociale, hein, et on va voir, donc, certaines personnes issues de la gauche très radicale, hein, comme Jean-Claude Michéa, par exemple, en fait, nouer des alliances avec l'extrême droite ou la droite radicale dans cette détestation commune d'un supposé wokisme. Et donc là, c'est quand même des choses auxquelles il faut prêter attention, qui témoignent de cette efficacité de ce terme un peu flou, mais terriblement efficace qu'est l'anti-wokisme.
Et dans le même genre, et dans cette revendication de l'héritage des Lumières dont parlait Martin, on voit la même chose dans le monde laïque. Alors, à Bruxelles, l'exemple le plus évident serait le café laïque, alors, dont l'utilisation du terme laïque est loin de contenter grand monde dans le monde laïque, mais qui, de nouveau, voilà, ça s'articule surtout à une opposition entre wokisme et défense de l'universalisme. En France, on dirait républicain, ici, je ne sais pas très bien comment il faut le qualifier, mais qui boit des mêmes racines. Et ce qui est très intéressant, c'est par exemple, on voit des fixations sur souvent les musulmans et les trans, qui sont devenus les deux ennemis principaux de l'universalisme pour ces gens-là, à tel point qu'on se demande parfois, voilà, si les musulmans sont trans ou les trans sont musulmans, enfin, ça devient des figures interchangeables dans ces discours, peu importe les revendications concrètes des individus de l'autre côté.
Oui, parce que vous disiez là qu'il y a ce côté de se revendiquer des Lumières avec cette idée de progrès. Pourtant, quand on entend anti-wokisme, on a plutôt l'impression justement de quelque chose d'un peu réac, de quelque chose de très conservateur et de justement d'empêcher un certain progrès, en tout cas un progrès des idées.
L'abandon du progrès, c'est une critique qui est très souvent adressée par les anti-wokistes aux théories critiques de la race. Parce que dans les théories critiques de la race, il y a une réflexion, enfin, et puis dans tout le courant post ou décolonial, qu'il ne faut pas confondre, d'ailleurs, ce sont deux courants très différents, mais ces différents courants partagent une attention particulière au temps long des injustices et à la façon dont les injustices, quand elles se sont accumulées sur des périodes longues, peuvent en fait se perpétuer dans le temps et avoir des effets discrets ou latents des décennies, voire des siècles plus tard. Et donc typiquement, dans les théories critiques de la race, on va insister sur la vie de l'esclavagisme ou les espèces, la prolongation de types de comportements, de types de discrimination héritées de l'esclavage, de l'institution esclavagiste dans le temps long. Et c'est quelque chose qu'on voit très fort aux États-Unis, par exemple. Et donc, on va avoir toute une critique chez les anti-wokistes de ce qu'ils vont nommer la repentance ou la culpabilisation, ou justement cette idée selon laquelle il peut y avoir des injustices historiques qui demandent soit d'être abordées de façon systémique, soit en fait appellent des réparations. Ça va être présenté comme un refus du progrès. L'idée selon laquelle on est dans la remémoration permanente, la repentance, hein, et donc voilà, et voir ça comme un déni du progrès, c'est quelque chose qui est très courant.
Alors, je dirais en même temps, ça c'est la version la plus progressiste du discours anti-wokiste, c'est-à-dire ouais. Il y a aussi une coexistence qu'on va retrouver par exemple chez Bardo Weaver, avec une vision beaucoup plus de droite, entre guillemets, ou plus conservatrice, qui est par exemple la haine de soi. Et on a tout un discours qu'on trouve beaucoup dans les productions, surtout d'extrême droite, sur la haine de l'Occident, la haine de ses racines, on ne sait plus d'où on vient. Ouais. Et donc là, on retrouve des figures d'un discours d'extrême droite sur les déracinés, sur ce qui est un peu la vieille critique contre le cosmopolite, par exemple. Et aussi dans la critique du progrès, on a le refus de la déconstruction. Et c'est intéressant parce que c'est refus d'un certain nombre de travaux en sciences humaines et sociales qui ont caractérisé les dernières décennies et qui ont permis de penser de nouvelles choses et de les penser autrement. Et c'est, au niveau de la science, une revendication chez un certain nombre de ces auteurs d'un positivisme digne du 19e siècle. Qui est intéressant parce qu'en sciences humaines, plus personne ne fait à peu près des sciences humaines comme ça. En tout cas, c'est une position très minoritaire. Mais tout d'un coup, c'est l'objectivité. Et donc voilà, là, quand Martin dit y a des choses qui restent du passé, etc., ça vient aussi contredire cette idée d'avancer vers un futur, enfin, qui sont des idées héritées du 19e siècle.
Ouais.
Alors là, en entendant, je vais continuer à l'appeler une nébuleuse parce que ça reste compliqué à définir. Finalement, pour l'anti-wokisme, il y avait une sorte de perte d'un privilège. On a une impression comme ça de rester dans une idée de privilège, d'une vision en tout cas très occidentale, très blanche, très cisgenre aussi d'ailleurs.
Je ne sais pas si c'est que la perte d'un privilège. Et là, je pense qu'il y a des éléments idéologiques différents qui viennent s'articuler.
Une suprématie peut-être ? Plutôt ?
Oui, ou des projets politiques différents, c'est-à-dire tout le monde ne vise pas l'émancipation, ou l'émancipation de quelques-uns, c'est des positions qui ne sont pas juste des réactions des pertes de privilèges, qui sont assumées comme telles par un certain nombre d'acteurs. Après, ce que je pense, c'est plutôt le refus d'émergence ou de remise en cause d'un discours majoritaire. C'est-à-dire, quand on parlait de l'héritage des Lumières, là, il y a quand même maintenant énormément de travaux sur tous les sujets qui montrent comme le contrat social oubliait beaucoup de gens, comme les Lumières avaient beaucoup de zones d'ombre, et aussi, ben voilà, ça fait partie du travail qui est fait aujourd'hui en histoire, en philosophie, pour réfléchir c'est quoi cet héritage et qu'est-ce qu'on n'a pas pensé. Et ce qu'on voit, mais qui n'est pas nouveau, on le voit en France depuis au moins 1989, c'est un raidissement de cette pensée qui, au lieu de pouvoir se réinventer, se réinterroger, s'enferme dans une image quasi mythologique, quasi révélée de c'est quoi les Lumières, c'est quoi la République, etc., etc., et qui arrive chez nous par le même biais. Et donc quand on a des gens qui disent « oui, mais en fait, vous défendez l'universalisme, mais vous nous oubliez parce qu'on a telle et telle caractéristique, parce qu'on a tel parcours », ben voilà, c'est un discours qui est refusé, et en ce sens-là, le discours anti-wokiste peut venir réarmer chez un certain nombre de personnes un discours majoritaire qui avait été mis à mal par un certain nombre de critiques.
Et sur Enfin, il y a une chose qui est notable, je trouve, dans la production littéraire des anti-wokistes, c'est il y a un ton, il y a un style quand même qui est particulier, il y a un style qui est un peu paranoïaque quand même, et dans lequel on sent que l'urgence à penser ce qui est dénoncé comme étant du wokisme vient d'une forme de crainte. Quand même. Et donc ça, c'est quelque chose, l'anxiété est palpable. Et donc, je ne sais pas si c'est lié à la perte d'un privilège, parce que je ne voudrais pas... il ne faudrait pas alimenter, si vous voulez, l'image. C'est typiquement l'image qu'utilise Bart de Wever dans son livre, par exemple.
Boulette.
Il dit, moi, je suis un homme blanc de 50 ans, privilégié, etc. Et donc, évidemment, de toute façon, tout ce que je vais vous dire est inaudible pour les woke, puisque je suis, par définition, la figure même de celui qui... enfin, je suis l'incarnation du mal dans leur vision du monde. Et donc, je ne voudrais pas alimenter ça, parce que je pense que, en fait... Justement, les pensées progressistes qu'ils attaquent sont en général bien plus subtiles et nuancées que l'image qu'ils en donnent. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est oui, ce sentiment d'anxiété qui alimente leur production. On le voit, c'est toujours un peu... Il y a des urgences, on est dans... Et alors, ça explique aussi certaines outrances langagières dans la façon dont ils écrivent, hein, quand ils finissent le wokisme comme un totalitarisme ou comme vraiment une menace qui plane, etc. On sent bien qu'il y a quelque chose d'excessif, hein, dans la façon dont c'est présenté. Et je crois que ça s'explique en partie par cette anxiété.
Et par ailleurs, ça, c'est un discours qui permet de mobiliser. C'est-à-dire que c'est un discours qui peut jouer sur des craintes, des peurs ou simplement des incompréhensions de monsieur et madame tout le monde qui sont réelles, qui, je pense, il n'y a aucune raison de les écarter. Et au contraire, il faut y travailler. Et parfois, le manque de réponse aussi ou le manque de prise en compte permet à ce genre de discours de venir apporter des réponses toutes faites et donc de mobiliser pour les partis politiques des soutiens électoraux. Mais ça peut être d'autres types de soutiens et on a plein d'exemples. Et donc là, c'est un discours qui mobilise. Et ce qu'on voit aussi à ce niveau-là, certainement dans le cas de la France, on a un rouleau compresseur au niveau éditorial. Donc on a... tout le temps des livres sur le sujet qui sont produits, ce qui permet au sujet d'être tout le temps présent sur les tables des libraires. Alors quand on lit ces livres, en fait, ils disent à peu près tous la même chose. C'est intéressant, c'est la notion de plagiat qui, pour nous, est centrale au niveau académique, n'est visiblement pas centrale dans ces livres-là, parce qu'en fait, ils se plagient les uns les autres. Mais par contre, l'effet fonctionne. Parce que quelqu'un qui est peu renseigné, qui se pose des questions, va aller dans une librairie. Si le libraire n'a pas fait un travail de sélection des ouvrages, il va tomber sur ces livres-là, les prend et peut tout à fait... j'ai ces arguments qui fonctionnent très bien pour quelqu'un qui est peu informé. Et donc, la même chose au niveau du matraquage médiatique. Puisqu'il y a une actualité éditoriale, il y a une actualité médiatique. Et donc, on entend tout le temps parler de ces questions dans un certain nombre de médias.
Mais aussi, ces questions, en fait, deviennent vite sujet à. Donc, dès qu'on peut, on lance un sujet, on est très vite taxé de wokisme, en fait. Alors que finalement, là aussi, on parle de nébuleuse au niveau de l'anti-wokisme. Le terme wokisme est aussi quelque chose, en fait, surtout si on parle au niveau européen. On parlait que c'est parti des États-Unis, ça avait peut-être une définition peut-être plus fine à ce moment-là, enfin plus définie, qu'ici, en fait, on ne sait pas du tout de quoi on parle.
Non, mais ce qui démontre l'efficacité du terme, hein, c'est qu'il est facile à mobiliser, il embrasse large, il permet de dénoncer à peu près tout et n'importe quoi, et on y attache une connotation très péjorative. Et donc, c'est normal que les gens l'utilisent, c'est très efficace. De ce point de vue-là, rappeler quand même un collègue qui travaille sur ces thématiques-là aussi, Alain Policard, qui vient de publier un livre dernièrement qui s'appelle « Le wokisme n'existe pas », hein, où il défend justement cette thèse sur laquelle il faudrait essayer d'arrêter d'utiliser ce terme, vraiment. Et moi, une chose sur laquelle je veux attirer l'attention, c'est simplement de dire... une des choses qui me semble être une évidence et qui est masquée par l'emploi de ce terme, c'est que dans les différentes luttes progressistes qui sont dénoncées par ce terme, personne... ne lutte pour le wokisme. Les gens luttent pour des objets spécifiques. Donc, il y a des luttes pour... anciennement, c'était le mariage homosexuel, ça peut être pour le droit des personnes trans, ça peut être pour la régularisation des sans-papiers. Enfin, je veux dire, c'est des luttes qui ont des objets spécifiques et qui n'ont aucun agenda woke à promouvoir. Il n'y a pas de... ça ne les intéresse pas. Et pour les comprendre Et pour dialoguer ou essayer de voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ces luttes, il faut évacuer ce terme qui, en fait, les obscurcit, empêche de voir ce qui s'y passe et regarder ce qu'elles font vraiment, concrètement. Et alors là, à partir de là, on peut commencer à rediscuter avec nuance et avec intérêt de si oui ou non les luttes sont utiles, vont dans le bon sens, si elles ne vont pas dans le bon sens, les méthodes qu'elles emploient, etc. Mais tant qu'on masque tout ça derrière une espèce de terme vague qu'est le wokisme, on ne sait vraiment parler intelligemment de rien.
Et qui masque aussi les divisions et les tensions. N'importe qui, enfin voilà, si on met deux féministes ensemble, le plus probable, c'est qu'elles se disputent. N'importe qui a travaillé sérieusement sur l'histoire du féminisme, mais c'est vrai de beaucoup de mouvements sociaux, est surtout frappé par l'histoire des divisions, des tensions. C'est avant tout une histoire de conflit, l'histoire du féminisme. Et c'est ça aussi qui fait avancer la pensée. Et c'est là où il y a une différence, dans le sens de ce que disait Martin, entre pouvoir discuter d'éléments dont on n'est pas d'accord, entre personnes qui se respectent, qui s'écoutent. Et je pense que c'est important la capacité d'écoute, ça veut dire la capacité d'un débat où on est prêt à changer sa position si on est convaincu par la position de l'autre. Ce qui, je pense, souvent n'arrive pas dans les gens qui dénoncent le wokisme, qui, la plupart du temps, n'écoutent pas et n'ont pas envie de changer de position. Leur position est déjà arrêtée et c'est un discours qui sert de marketing à emballer leur position. Et l'autre chose, c'est que la dénonciation... Enfin, les personnes qui sont vraiment animées par le désir de dénoncer certains travers militants qui peuvent exister, c'est pas qu'ils n'existent pas, certaines manières de faire, certaines évolutions qu'ils ne comprennent pas, c'est pas en attaquant de manière violente dans l'espace public qu'on peut réellement apporter des discussions ou parler de ce genre de choses. Donc ce discours public est un discours de dénonciation et d'attaque. Et donc les arguments pour dire « non, c'est en fait pour qu'on fasse un antiracisme qui soit moins excluant ». Non, en fait c'est pas vrai, ça sert surtout à promouvoir un discours raciste.
Oui, c'est ça. Et donc finalement, l'anti-wokisme, faudrait aussi arrêter de le nommer comme ça d'ailleurs, puisque c'est, en fait, finalement, c'est les personnes qui sont à la base de cet anti-wokisme qui finalement mettent du wokisme partout, même là où on n'a pas spécialement.
Donc nous, notre position, c'est qu'il faudrait arrêter de parler de wokisme. En revanche, moi, je pense que quand même, il se joue quelque chose derrière l'anti-wokisme, c'est-à-dire que là, il y a une forme de concertation. Je voudrais surtout pas avoir l'air conspirationniste. Hein. Non, mais il y a pas de,
il y a pas de grand complot.
C'est simplement différents courants et différents mouvements qui ont compris en même temps qu'il y a fait un terme qui en fait était assez pratique, assez malléable, assez plastique et permettait conjoncturellement comme ça de faire converger un peu leurs différents agendas politiques. Et donc qui se range derrière ça sans qu'il y ait de coordination préalable ou c'est un effet d'aubaine en fait. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est prendre ce qu'ils écrivent pour argent comptant.
Bien sûr.
Et je pense anti-wokisme, c'est un terme descriptif. C'est-à-dire, pour l'instant, ce que disait Martin au début, on a du mal à trouver un agenda idéologique fort au-delà de l'utilisation commune du terme wokisme pour dénoncer toutes sortes de choses, éventuellement peut-être un accord sur ce que ça impliquerait ou qu'est-ce qu'il souhaite dénoncer. Et donc voilà, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe là, ce mouvement-là, et donc le décrire, et c'est là où je dis que c'est un terme descriptif, on n'a pas beaucoup d'autres ressources à l'heure actuelle que d'utiliser, le définir par le mot auquel il s'oppose ou le mouvement auquel il s'oppose.
Alors du coup, et c'est peut-être là, ça va être quasi dans les dernières questions, alors est-ce que finalement l'anti-wokisme c'est un discours ou est-ce que c'est une idée politique? Ou c'est encore autre chose?
Les idées politiques passent par des discours, les idées politiques ont besoin d'être communiquées et diffusées parce que les idées politiques ont quand même toujours in fine pour objectif de persuader et de convaincre, je pense en tout cas dans un contexte démocratique, et donc d'essayer d'obtenir le consentement et l'assentiment de la partie la plus large possible de la population. Donc, mais je pense que c'est plus qu'un discours quand même, il faut faire attention, c'est que l'anti-wokisme qui est encore majoritairement un discours, mais ne deviennent des pratiques gouvernementales, okay. Par contre.
C'est un risque. Il y a Bart de Wever qui est formateur.
Oui, et je veux dire, en France, on a vu Jean-Michel Blanquer qui a essayé de mettre au pas la recherche universitaire en menant des enquêtes sur ce qui nommait des dérives du milieu universitaire, etc. Et donc, il y a eu des tentatives quand même de régulation de la recherche, par exemple en France, au nom de l'anti-wokisme.
Et alors, à quel niveau?
Et donc lui, Blanquer, il
c'était
avait...
C'était avec sa collègue de,
c'était avec sa collègue, Dominique Vidal, voilà. Qui, elle avait commandité auprès du FNRS un rapport sur... Et alors là, l'histoire CNRS. Est un peu compliquée, mais CNRS, un rapport sur l'islamo-gauchisme. Islamo-gauchisme qui est, en quelque sorte, le ballon d'essai, hein, qui vient avant le wokisme. Et l'islamo-gauchisme est encore... étrangement spécifique par rapport au wokisme. C'est-à-dire que ça dénote... ça s'en prend à un type de lutte particulier qui est dénoncé. C'est plutôt les mouvements pro-palestiniens et les luttes contre les discriminations et les mouvements antiracistes politiques qui sont visés, alors. Et donc, ça n'est pas aussi efficace que le wokisme. Le wokisme embrasse beaucoup plus large puisqu'il permet d'attaquer en même temps les féministes, les militants des droits des personnes trans, etc., etc. Donc, il va plus loin. Mais donc, il y a cet exemple du rapport Vidal qui n'a en fait jamais été produit parce que le CNRS a refusé de mener cette enquête. Mais de façon plus nette encore, on peut regarder la Floride de Ron DeSantis, où là, un des effets, c'est par exemple la censure massive de livres. Où là, il y a des pratiques de censure à très large échelle au nom de la lutte contre le wokisme.
Donc, la même chose dans les interventions dans les écoles, interdire l'enseignement d'un certain nombre de choses, révision par exemple des cours d'histoire, ce qui s'est fait en Californie mais ailleurs, des lois de restriction, par exemple aux États-Unis, on voit aujourd'hui une vague de lois anti-trans pour empêcher l'accès à un certain nombre de traitements pour les personnes trans par exemple. Et pour revenir au cas français, ce qui est important, c'est que cet agenda est aujourd'hui très présent dans le gouvernement. Donc il y a eu l'épisode Blanquer-Vidal sur l'islamo-gauchisme, où le CNRS a refusé, en disant que ça n'avait aucune réalité, a refusé de faire l'enquête. Mais après ça, on a eu un certain nombre d'initiatives parlementaires qui visaient la mise en place de commissions d'enquête sur les dérives à l'université. C'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de pays. Ça a été caduque avec la dissolution, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un des textes qui avait été déposé par l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur en France a été redéposé par le Rassemblement national, avec les pouvoirs, du coup, de faire comparaître des gens, de leur demander des comptes. Donc, c'est des discours qui s'incarnent dans des pratiques réelles à différents niveaux. Et ça, c'est des pratiques qu'on voit circuler entre de nombreux pays, et des pays qui ne sont pas uniquement le régime autoritaire de Viktor Orban.
Et de ce point de vue-là, parce qu'on est sur Radio Campus, je pense que c'est quand même important de souligner que pour le discours anti-wokiste, l'avant-garde de la lutte wokiste se situe dans les universités. C'est ça souvent qui est visé en premier. Bardo Weaver, dans son livre, par exemple, a cette expression où il dit « le poisson commence à pourrir par la tête ». Et donc, c'est assez symptomatique que les premières initiatives gouvernementales ou parlementaires qui aient eu autour de cette question du wokisme cherchent prioritairement à s'en prendre plutôt au milieu culturel et intellectuel. Et donc là, s'il devait y avoir des suites, je pense qu'en Belgique, par exemple, c'est du côté des universités ou de la RTBF qu'il faudrait regarder sur la façon dont la lutte contre le wokisme pourrait être menée. Si, avec le changement de majorité, par exemple, il y avait des initiatives qui étaient prises de ce côté-là.
Et en ajoutant peut-être aussi en Belgique, ce qui est en discussion aujourd'hui dans les négociations fédérales, et on verra ce qui en sort, c'est une remise en cause au niveau fédéral très forte des deux Equality Bodies, donc de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et d'UNIA, ce qui est un long combat de la NVA, mais qui vient s'incarner dans toutes ces dérives, enfin tout ce qui est la dénonciation de dérives, ce que fait la NVA depuis longtemps contre ces deux institutions. Donc limiter le droit, enfin des choses qui sont en discussion, c'est limiter la capacité à rester en justice pour ces organismes. C'est régionaliser ces organismes aussi. Donc il y a en tout cas une volonté d'agir. Il y a aussi eu des discussions de ce qu'on sait sur les suppressions de quotas dans les entreprises, par exemple, pour les femmes. Donc de supprimer un certain nombre de mesures volontaristes qui ne respecteraient pas cet universalisme, qui serait discriminatoire. Ce qu'on a vu aux États-Unis avec la remise en cause de l'action positive dans les universités, où c'était intéressant, c'était un groupe d'étudiants d'origine asiatique qui venaient attaquer des dispositifs qui servaient aux populations afro-américaines. Et qui ont gagné. Donc, ce genre de choses peut arriver chez nous aussi.
Mais il y avait déjà rien que le fait d'interdire l'écriture inclusive. Voilà. Rien que ça, en fait, on peut dire que c'est déjà une mesure, en fait.
Elle a été...
En tout cas, c'est dans l'accord de gouvernement, donc on va voir ce qui va se passer. Et comment ils vont le faire, surtout. C'est-à-dire, c'est mentionné dans leur accord. La mise en œuvre, on verra, ça on ne sait pas encore. Mais oui, mais ça en France, par contre, Martin parlait de Blanquer, au niveau de l'éducation nationale, il y a eu les circulaires Blanquer sur, contre l'utilisation de l'écriture inclusive. Et régulièrement, on a encore des attaques parce que des collègues l'ont utilisé pour écrire un document officiel ou l'ont utilisé pour une thèse de doctorat, et c'est contesté par d'autres gens.
Ah ouais.
Et c'est un enjeu, ça dans le numéro de la Revue Nouvelle, Laurence Rosier a fait un article sur les débats sur l'écriture inclusive, qui certainement en français, mais pas uniquement, cristallise un certain nombre de débats autour du wokisme.
Oui, c'est ça. C'est vraiment l'endroit aussi. Enfin, on bouge à quelque chose à l'Académie française, mine de rien.
Oui, puis on retrouve des débats sur effacer l'histoire. La même chose que les statues qu'on déboulonne. C'est cette idée qu'on effacerait d'où on vient. Mais non, la langue, elle a toujours évolué, comme l'histoire aussi. Enfin, il y a une différence entre l'histoire et la mémoire. Si on met une statue sur une place, c'est pas l'histoire qu'on change. On peut pas la changer, l'histoire. Mais on estime peut-être que cette personne on n'a pas envie de se rappeler de cette personne tous les jours et de passer devant une statue qui rappelle des choses qui peuvent être douloureuses pour d'autres personnes ou qui peuvent être problématiques. Ça, on l'a toujours fait. À connaissance, il n'y a plus de statue d'Hitler en Allemagne, par exemple. C'est exactement la même chose.
Eh bien voilà, ceci marque la fin de cette émission. Donc on parlait d'anti-wokisme avec David Paternotte et Martin Delex. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans
Merci
cette
à vous
émission.
Pour l'invitation.
Avec plaisir. Et donc,
Merci.
On peut renvoyer les auditrices à la Revue Nouvelle.
C'est
le bon plan, là.
Oui. Un numéro qui s'appelle « Qu'est-ce que l'anti-wokisme ?» Donc, voilà.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Et à très bientôt. Au revoir. Je suis unie.